Directeur de la radio insolite, on redémarre la semaine comme il faut. Et là, on est dans nos penates, puisque c'est un ancien collégien, lycéen de Villeurbanne, qui a fait le conservatoire dans Lyon, que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors, tu as cédé, comment dire, à l'appel de la capitale. Il fallait absolument que tu aies entre la Tour Eiffel, les Champs-Élysées.
C'est-à-dire que les propositions de travail étaient plus évidentes à l'époque à Paris, quoi. Voilà, surtout. Et puis j'avais envie de faire la fac de théâtre qui n'existait pas à Lyon. Il y avait Aix-en-Provence et Paris. Il n'y avait que Paris, la Sorbonne, quoi, l'Institut d'études théâtrales. C'est une des raisons pour lesquelles je suis monté à Paris, puis j'avais envie de changer d'air aussi. Lyon, à l'époque, c'était un peu grisou, un peu grisaille, quoi.
C'est joli aussi, Aix-en-Provence. Hein.
Aix-en-Provence, il y avait l'Institut d'études de théâtre et l'Institut d'études cinéma, et je ne sais pas si ça existe toujours.
Ah oui. Et c'est vrai que maintenant, nous ici, l'avantage à Lyon maintenant, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'école de la rue Blanche, qui est l'ENSAT, qui est venue s'installer.
Il y a l'ENSAT qui est à Saint-Jules, oui, je sais. Ouais. C'est bien d'ailleurs, c'est vraiment bien. Justement, de ce côté-là, Lyon a beaucoup... s'est ouvert et a progressé de ce côté-là. Quoi. À l'époque, moi, à mon époque, c'était en 1975-76, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le conservatoire, et puis après, les débouchés, c'était à Paris, quoi, grosso modo. Hein.
Ah, ben c'est souvent comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le théâtre ?
Eh bien, le hasard, comme je l'ai écrit dans le texte, c'est-à-dire que j'étais à l'Opéra de Lyon, je faisais de la figuration, et puis lors d'un spectacle qui s'appelait Le brave soldat Schweik, où il y avait un livret écrit par Bertolt Brecht et l'opéra de Kurt Weill.
Oula.
Et un acteur se blesse et on me demande de le remplacer au pied levé. Et donc je l'ai remplacé, ça a été mon premier rôle alors que j'ai pris aucun cours de comédie. Ce jour-là, dans la salle, il y avait Monsieur Jean Bouise qui travaillait à l'époque directeur du conservatoire de Lyon, qui m'a repéré puis qui m'a demandé de venir assister au cours. Et puis voilà, et à partir de là, j'ai commencé à aimer le théâtre et à goûter les grands textes classiques. Surtout, ça me, comme je faisais après, comme j'ai fait ensuite une fac de lettres, voilà. Donc c'est un peu les textes, la littérature qui m'a emmené vers le théâtre.
D'accord.
Et puis le hasard.
Et après, tu as mixé entre le théâtre, le cinéma, la télé, ce qui est assez sympa quand même, et c'est un univers, j'allais dire, toujours le même mien.
J'ai eu beaucoup de chance. C'était à l'époque, quand on jouait au théâtre, les casting directeurs et même les assistants de mise en scène venaient voir les acteurs au théâtre. Et on nous engageait ensuite à la télévision et au cinéma. Chose qui est aujourd'hui très difficile. Maintenant, un casting ne se déplace plus. C'est tout juste s'il voit un agent, il va directement sur Internet et boum, badaboum, on propose un prix misérable à l'acteur et s'il veut pas, bah, tant pis, on en prend un autre. Alors qu'avant, c'était pas la même chose. Avant, on venait te chercher au théâtre et si on te voyait dans un beau rôle, on te proposait un joli rôle à la télévision ou au cinéma. J'ai eu cette chance-là, moi. Voilà. J'étais un peu dans la lignée. Ceux qui ont tracé le chemin, c'est les Arestru, Parditi, tous ces gens-là, Dussolier. Et nous, on est venus après, Huster, etc. Et nous, on est venus après et on a hérité de cette mine d'or qu'ils ont laissée, quoi. Et après, ça a complètement changé. Voilà. Après, la multiplicité des chaînes, etc. Maintenant, on est dans un autre domaine. C'est pour ça que je trouve que c'est très, très difficile pour les jeunes gens, pour les jeunes comédiens aujourd'hui, parce qu'à la sortie du conservatoire, c'est pas évident ou des cours de théâtre, parce qu'il y a le monde du conservatoire, mais c'est pas évident d'être engagé dans des pièces de théâtre, déjà, ne serait-ce que ça. Voilà comment c'est arrivé.
D'accord, ok. T'as tout fait, t'as fait du classique, t'as fait du moderne, tu as fait...
J'ai commencé en travaillant pour des jeunes compagnies à l'époque. Ça marchait très fort avec Jacques Lang, qui avait lancé le Festival de Nancy. C'était formidable, quoi. Festival d'Avignon, etc. Sarlat qui est venu après. Il y avait toute cette effervescence où les jeunes compagnies vraiment explosaient. Il y avait des moyens, il y avait des subventions, etc. Et j'ai commencé tout de suite, en effet, par le classique. Marivaux, Shakespeare, Molière. Ensuite, le théâtre subventionné m'a repéré, toujours dans le classique. Et c'est avec le théâtre privé qui m'a fait les yeux doux à un moment donné. J'étais pas trop chaud. Et puis finalement, j'y suis allé parce que d'abord c'était bien payé, et puis parce que surtout j'avais envie de jouer des auteurs contemporains comme Armand Salacrou, j'aime jouer même Josiane Balasco, etc. quoi. Mm-hmm. Donc j'avais envie de jouer tous ces auteurs là. Et j'ai travaillé avec des gens bien comme Daniel Bess, Patrice Kerbras, voilà, Pierre Trappet, Raphaël Cambrai, voilà.
D'accord. Et là, tu te dis, tiens, j'ai bien joué, maintenant j'ai à écrire.
Eh ben, en fait, maintenant, oui, ça fait quand même 45 ans, 47 ans que je fais ce métier. Et puis, on m'a poussé à écrire. Tout le monde me disait, écoute, raconte-nous tes histoires, tu les racontes tellement bien dans la vie, pourquoi tu les écris pas? Moi, franchement, ça me branchait pas des masses, je faisais ça pour faire plaisir à mes copains. Et puis, ma femme m'a poussé à écrire, puis je voulais rendre hommage à ma maman. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, la seule chose que je peux faire, c'est de lui écrire quelque chose pour elle, sur elle, à propos d'elle. Et donc, j'ai écrit mon trésor, qui est l'amour que j'ai pour ma maman et celui qu'elle a pour moi. Voilà.
Alors, j'aime bien parce que dans ta présentation, il y a marqué « Pourquoi mon trésor ?» L'amour d'une maman, l'amour d'un pays de naissance, l'amour d'un pays d'accueil, l'amour d'un métier, l'amour de la vie. Vivre est un trésor inestimable. C'est un joli texte quand même.
C'est très très joli, oui. Parce que pour moi, vivre est un trésor inestimable parce que j'ai eu à un moment donné des gros gros soucis de santé. Je m'en suis merveilleusement sorti. Et à ce moment-là, quand tu es à l'hôpital et que tu sais pas si tu vas vivre ou mourir, tu te dis vivre, c'est un trésor inestimable, tout simplement. Donc chaque jour, je me dis merci le ciel, merci Dieu, merci la vie de pouvoir exister, quoi, d'être. C'est la seule prétention que j'ai dans la vie. Et celle d'avoir ma maman toujours en vie, qui a 95 ans, à qui je rends hommage tous les jours. Voilà.
D'accord. Pour la pièce Mon Trésor, on repart en avril 1962, c'est assez conséquent, et là, tu racontes ta vie d'enfant.
Voilà, mon enfance algérienne, pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'ai traversé la guerre comme un enfant de 5-6 ans qui voit un film de cow-boy et d'indien, hein, c'est ce que je dis à mon texte. Et bien sûr, il y a le traumatisme, mais sur le moment, nous, on le sent pas, quoi. Donc, je continue à jouer avec mes copains juifs, arabes, chrétiens, aux Trois Mousquetaires. Voilà, pour tous, là-dedans. Et puis, il y avait quand même la guerre, j'ai failli même mourir une fois, une balle m'a passé à côté de moi et a tué un monsieur. Et c'est en venant à Lyon, en rentrant en France, que je me suis rendu compte quand même, comme tous les enfants de la guerre, que le traumatisme en fait était là, et que surtout, ce qui est formidable chez les enfants de la guerre, c'est qu'on a des images très très fortes, inconsciemment évidemment.
Exact.
Mais ça s'inscrit extraordinairement dans la mémoire. Et on a une mémoire beaucoup plus aiguisée, pour le coup. Et donc, ce texte, c'est aussi un texte sur la mémoire. Parce que je me rappelle des choses, enfin des événements, des faits, à 5-6 ans, quand je raconte ça à ma mère, elle me dit, mais comment tu te souviens de ça? Il paraît que chez les enfants de la guerre, on a une mémoire qui est très très forte. Mmh. Voilà. Donc c'est un texte sur la mémoire et sur la mémoire des émotions que j'avais en Algérie, la mémoire de la vie, du quotidien en Algérie avec ma mère qui m'emmenait partout, la mer, le soleil, et puis la vie communautaire. Moi, je me rendais pas compte de la guerre, du racisme. Mmh. Je ne le faisais pas, le racisme. Je vivais d'ailleurs avec des Arabes et des chrétiens dans le même quartier. Voilà. Et en France, on a continué en arrivant à Villeurbanne. On s'est retrouvé rue Olivier de Serres, qui est pas loin de la piscine de Cusset. Mmh. Et là, c'était, ils avaient créé des préfabriqués où tous les pieds noirs, les juifs d'Algérie, les Français d'Algérie et les harkis et des musulmans vivaient en communauté. Ça se passait très 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 bien. On reproduisait un peu l'Algérie, quoi. C'est ensuite avec le maire Pradel qu'on s'est tous dispersés. Puis moi, on a fini par vivre à la part Dieu. Comme dit ma mère, à la part de Dieu.
Alors, ce que j'aime aussi, c'est que tu résumes ton arrivée sur Lyon à trois choses: la neige, le foot et les bugnes lyonnaises. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça assez original. Pourquoi pas? C'est pas interdit.
Ah oui, à la neige, j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, c'est un matin, je me réveille. J'étais avec mon ballon de foot et je vois un tapis de neige dehors. Je dis, maman, on peut pas jouer au foot, là. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, c'est la neige. Et après, j'ai appelé ça la neige. J'avais jamais vu ça, sinon, sur quelques photos quand j'étais gamin. Mmh. Et puis, on traînait mon nez, mon nez caressait les vitrines de bugne lyonnaise. C'était à craquer, ce truc-là. Et puis le foot. À l'époque, il y avait l'OL, l'Olympique lyonnais.
Ah ben, j'y suis toujours là.
Hein. Ah ouais, je suis toujours un fan. Hein. Mais à l'époque, c'était Floridinalo pour les connaisseurs, Pascal Rambert, les frères Rambert, Marcel Aubourg, etc. Chauveau, j'étais un fou de l'OL. J'allais au stade de Gerland, on payait pas parce qu'on était petits, quoi. Voilà.
C'est vrai que c'est vrai que l'interrogation d'aujourd'hui, c'est: vas-tu devenir le Marcelo Mastroianni français?
C'est un peu trop tard.
Pourquoi? Il n'y a pas d'âge pour ça.
69 ans, c'est un peu trop tard.
Bah écoute.
À la sortie du conservatoire, quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire du théâtre, elle dit, si Dieu le veut, tu deviendras le Marcelo Mastroianni français. Et c'est vrai que c'est un de mes acteurs préférés, avec Alain Delon, avec qui j'ai joué, avec qui j'ai fait deux longues séries à la télévision, Fabio Montal et Franck Riva.
Ça va, c'est sympa quand même.
Ah ouais. Ça, c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé. C'était mon idole et j'ai joué deux ans avec lui dans deux longues séries à la télévision. Ça a été un très très beau moment de ma vie. Voilà.
Ah ouais, là, tu viens de me voler la prochaine question là. Logiquement, je demande toujours quel est ton rêve. Mais tu l'as déjà vécu, on dirait.
Mon rêve d'acteur, c'était ça, oui, c'était de jouer soit avec Marcelo Mastroianni, que j'ai rencontré à Saint-Germain, avec Ettore Scola. Je me suis arrêté pour leur dire bonjour, on a pris un café. Je parle italien couramment, donc on a parlé en italien, c'était merveilleux. Je leur ai demandé de me proposer un petit rôle dans un film. Et puis ils m'ont dit, viens en Italie, et puis on verra, puis je suis jamais allé. Et puis Delon, voilà. Delon, c'était... Bon, il y avait les fans de Belmondo à l'époque. Moi, Belmondo, pour moi, je suis pas un fan. Mais Delon, d'abord, je le trouvais très, très beau. Et puis, comme tous les gamins à cette époque-là, on s'identifiait, quoi. Et un jour, je me suis dit, c'est bien beau de faire du théâtre, Shakespeare, Molière, mais j'aimerais bien jouer un voyou ou un flic pourri avec Alain Delon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué un flic pourri où je devais tuer Delon. Finalement, c'est lui qui me tue.
D'accord.
Voilà l'histoire.
Alors, c'est pas encore commencé, tu vas laisser les fêtes de fin d'année passer et tu démarres à la scène parisienne du 12 janvier au 1er avril, tous les lundis à 19h30 et tous les mercredis à 21h15.
Exact.
Mais c'est pas beaucoup.
Exactement. Deux soirs par semaine. Tu sais, maintenant, à Paris, les théâtres multiplient le nombre de spectacles pour rentabiliser. C'est plus l'époque où on jouait 4 ou 5 représentations par semaine. Là, si tu veux, maintenant, dans les plus grands théâtres, en tout cas, surtout les théâtres privés à Paris, tu as parfois 15-20 spectacles. Donc, chacun joue 2-3 fois dans la semaine. Et ça permet au directeur du théâtre d'avoir une rentabilité et un visuel aussi. Parce qu'il y a plusieurs, parfois, il y a des compagnies qui sont connues, des acteurs connus, qui viennent jouer 2 ou 3 soirs, ça les arrange aussi, tu vois. Moi, je t'avoue que 2-3 soirs, pour le moment, c'est bien. Et puis, si c'est bien et qu'on doit prolonger, à ce moment-là, on fera 4-5 soirs par semaine. On ira jusqu'au mois de juin. Voilà.
Il y a déjà une idée, peut-être, de ton spectacle, Mon Trésor, qui tourne en région?
Là, pour l'instant, on ne tourne pas en région. Non, pour l'instant, il est créé pour Paris. Et après Paris, il va tourner en région. Après, on ne fait pas le Festival d'Avignon cette année parce que c'est un peu trop tard et puis c'est un petit peu difficile. Je trouve que 1850 spectacles...
Ça fait beaucoup.
Se fourrer là-dedans... C'est bien si c'est une reprise, si tu reprends le truc. Mais d'aller le créer, d'arriver pour une première fois là-bas, c'est très, très compliqué. En plus, c'est très, très cher à Avignon maintenant. Vraiment, c'est devenu un festival 5 étoiles, quoi. On se récupère pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps rentable d'ailleurs. Et plutôt commencer une tournée à partir du mois d'octobre, à partir de la rentrée, quoi. après justement l'été, après les festivals, pour 2026 et 2027.
D'accord.
Voire 2028, si ça marche bien. Voilà.
Ok. Donc ça s'appelle Mon Trésor, la scène parisienne, 12 janvier et 1er avril 2026, tous les lundis soirs à 19h30 et tous les mercredis soirs à 21h15.
Avec Magali Bonfils, avec qui je partage la scène, mise en scène de Raphaël Cambray, qui vient de décrocher le Molière du deuxième rôle féminin avec du charbon dans les veines.
D'accord. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que tu es en même temps auteur et comédien dans cette pièce de théâtre.
Voilà. Auteur, comédien et aussi un peu coproducteur.
D'accord, un peu quand même.
Un peu, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai créé une compagnie de théâtre qui est coproductrice avec Joueur Production, les deux boîtes qui sont associées dans ce spectacle, c'est Joueur Production et la compagnie Samish.
C'est qui, Mich?
Samish.
J'ai dit c'est qui, Mich?
Mich, c'est ma femme.
Ah d'accord, ouais, parce que ça, on doit se douter que c'est Samuel, donc Marc Samuel, ton nom, quoi.
Elle s'appelle Michel.
D'accord.
Voilà.
Ok. Bah, écoute, moi, je vais te remercier de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous tapez Mon Trésor Marc Samuel sur Internet et vous pouvez réserver. Je vous rappelle, donc du 12 janvier au 1er avril 2026, la scène parisienne. Merci à toi, Marc.
Merci à toi, là, vraiment une interview très sympa. En plus, avec un Lyonnais, ça me fait plaisir.
Non, Villeurbanne, s'il te plaît. Merci.
Villeurbanne, comme moi.
Exactement. Au plaisir.
Merci beaucoup. Peut-être à Paris pour le spectacle.